À toutes et à tous, que la grâce et la paix de Dieu soient sur nous. C'est beau de vous voir ici, au moins moi et vous aussi, je suppose, on a très apprécié les cantiques de jeunes filles. On apprécie aussi la chorale quand elle vient. Des fois, je me dis, le Seigneur, il a placé tellement de dons dans notre Église et nous ne les mettons pas en pratique. Nous devrions faire beaucoup plus. Mais continuons à nous confier dans le Seigneur et à espérer que nous puissions écouter sa voix. Il y a un verset que je vais vous lire. Il se trouve dans l'Apocalypse, mais ce n'est pas le verset du message. Hein, mais je vais vous le lire quand même. C'est dans l'Apocalypse 1, il nous est dit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Heureux ceux qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. » Est-ce que nous croyons à la prophétie? La prophétie, c'est le gond de la parole de Dieu. Car Dieu, il s'est révélé comme un grand Dieu parce qu'il a tout prophétisé. Tout est dirigé déjà. Je vous donne un petit exemple, par exemple, dans Ézéchiel, à propos de cette prophétie. Le chapitre 37, c'est encore un verset que beaucoup ils n'arrivent pas à saisir. Et pourtant, le Seigneur est clair là. Voilà ce qu'il dit dans ce chapitre 37. Verset premier, il dit « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit. » C'est-à-dire en esprit, hein. Il l'a ramené dans un endroit pour lui montrer des choses, dans le futur. Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il n'y avait que des os. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Et voici, ils étaient nombreux à la surface de la vallée et ils étaient secs. Voilà, ils étaient secs, sans vie. Il me dit, fils d'homme, ces eaux pourraient-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître en vous de la chair, je vous couvrirai des peaux, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y a eu un bruit. Et voici, il se fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs, la chair crut et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point à haut d'esprit. On croirait d'être dans un film de science-fiction. Hein? Ces eaux secs qui ils bougent et tout se met en marche. Il me dit, prophétise et parle à l'Esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit vient des 80, souffle sur ses morts et qu'il revive. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux. Ils reprirent vie et ils se tirent les uns sur ses pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres. Ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Voilà, là, ici, c'est la prophétie. Vous savez que le peuple d'Israël, à cette époque-là, il n'y avait plus de royaume. Ils étaient déportés. Le Seigneur, il les a fait revenir de Babylone. Mais il n'y avait pas de royaume. Et ici, il nous a dit qu'il a transporté Zacharie, hein, en esprit. Et il a vu ses os, ses ossements. Et il nous a dit, qui sont ces os? Et l'Éternel lui répond, c'est la maison d'Israël. Mais ils étaient des os secs, sans vie. Et le Seigneur, il leur a dit, prophétise, je vais leur donner la vie. Et il nous a dit, et je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé. C'est la prophétie de Dieu ici. Ils n'avaient pas de pays. Depuis 2000 ans, depuis qu'ils ont crucifié Jésus-Christ, le Seigneur, il les a éparpillés en 70, partout dans le monde entier. Il n'y avait pas de peuple d'Israël. Il n'y avait pas de nation d'Israël. Et le Seigneur, il a dit, mais je vais vous rétablir. Qu'est-ce qu'il est arrivé en 1948? La nation d'Israël, elle est sortie. Pourquoi? Parce que Dieu, il a prophétisé. Dieu, il a tout prêt. C'est ça la prophétie. Pourquoi la nation d'Israël, elle est revenue? Parce qu'il y a le plan de Dieu qui doit s'accomplir. Sans l'État d'Israël, en 1948, on ne pouvait pas dire que la prophétie de Dieu, il allait s'accomplir. Mais c'est arrivé exactement comme Jésus l'a préparé. Il l'a dit. Lorsque vous verrez les feuilles du figuier fleurir, alors levez les yeux aux cieux, car la fin est proche. Depuis 48, la nation d'Israël est sortie, alors depuis ce moment, levons les yeux. Le Seigneur va bientôt venir. C'est ça, il les a rétablis. Mais ici, il nous a dit, ils étaient secs. Les nerfs, ils se sont, c'est sorti des gens. Aujourd'hui, le peuple d'Israël, il est là, mais il lui manque une chose, il lui manque l'Esprit de Dieu. Et pour cela, encore une prophétie, ouvrez dans Zacharie, encore une prophétie que le Seigneur, il nous montre. Hein? Zacharie, chapitre 12, et c'est là qu'il y a mon message d'aujourd'hui. Mais c'est encore une prophétie. Nous devons croire dans les prophéties de Dieu. Ce que Dieu dit dans sa parole, il va se réaliser. Heureux ceux qui lisent, écoutent ce que le Seigneur dit. Regardez ce qu'il dit. Chapitre 12, verset 10. Il dit, alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront le regard vers moi. C'est lui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui, comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, comme on pleure sur un premier-né. Ici, le Seigneur a encore une prophétie. Il a rétabli le peuple d'Israël, mais il lui manque l'Esprit. Et ici, le Seigneur, il est clair, il prophétise. Et il dit, je répandrai sur la maison et sur les habitants de Jérusalem, qui sont là en tant que nation, un esprit de grâce et de supplication. Ce verset-là, il nous dit que le peuple d'Israël, il va se convertir au Seigneur Jésus. Et dans ce verset-là, on voit aussi une image de ce qu'il nous est arrivé à nous qui avons accepté Jésus-Christ dans notre propre cœur. La façon dont nous nous sommes convertis, c'est exactement ce qui va arriver au peuple d'Israël. Et je vais vous montrer tout cela en faisant ressortir de ce verset trois points qui sont très importants. La conversion d'Israël qui est prophétisée, un jour il arrivera. Mais notre propre conversion, c'est quoi la conversion? Qu'est-ce que ça signifie se convertir? Se convertir, ça signifie tourner le regard vers Dieu. Tourner le regard vers Dieu. Pour ceux qui ont fait le service militaire, hein, lorsqu'on est militaire, on est tous bien alignés, alors le sergent lui dit « Dieu te fronte !» Je ne sais pas comment on dit en français là. Hein? Voilà, demi tout droite. Hein? Et alors, on se tourne comme ça, voilà. Chez nous en Italie, on dit « dietro front », c'est-à-dire « tournez-vous complètement ». C'est-à-dire que la conversion, c'est que on tourne le dos à Dieu. On est des pécheurs, on est condamnés, on est maudits, on tourne les dos à Dieu. On ne veut pas de Dieu. Dans ce monde, ils ne veulent pas de Dieu. On ne veut pas des directions divines. Voilà pourquoi le Seigneur, il nous dit qu'Israël va être converti. Et nous aussi, nous nous sommes convertis. Nous nous sommes tournés vers le Seigneur. Nous étions des ennemis de Dieu. Nous nous tournons vers lui pour nous mettre entièrement entre ses mains. C'est ça, se convertir. Et il va faire la même chose, Israël, dans la prophétie. Mais nous l'avons expérimenté, chacun de nous. Mais regardons ce verset en trois points, justement. Et on va voir qu'est-ce qu'il va arriver lorsque Israël il va se convertir dans le futur et lorsque nous, nous nous sommes convertis. Qu'est-ce que c'est qui nous est arrivé? Exactement la même chose qu'arrivera à Israël dans le futur. Pourquoi? Parce que c'est la voie que Dieu il a choisie et on ne doit pas la changer. La première chose, on la voit dans la première partie du verset 10. Il nous est dit, « Je répandrai sur la maison de David et les habitants de Jérusalem un esprit de grâce. » Un esprit de grâce. Premier point, c'est que la conversion, il vient par et à travers la grâce de Dieu. Les frères, il nous a pas mal parlé de la grâce de Dieu. La conversion, il vient par et à travers la grâce de Dieu. Hein? C'est par grâce dans le Nouveau Testament, il nous dit dans Éphésiens 2:8. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Hein? Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Cela ne vient pas de nous. Pas la foi, parce que la foi, elle vient de nous. Mais la grâce, elle ne vient pas de nous. Hein? Et dans les deux, dans le grec et dans l'hébreu, le mot grâce, hein? Voilà, je regardais, grâce, ça signifie bonté, pardon, faveur imméritée, venir en secours de. C'est ça la grâce, quelque chose qu'on ne mérite pas. Voilà pourquoi elle vient de Dieu. La conversion, ce n'est pas du fait de l'homme. Ce n'est pas, je ne me convertis pas parce que j'ai fait des choses, je ne sais pas quoi. Mais c'est que Dieu, il intervient. Dieu, il se tourne vers moi et il m'appelle. C'est l'appel de Dieu au salut. Voilà pourquoi il nous est dit dans Ézéchiel, on l'a lu, hein, nous sommes perdus, nous sommes condamnés, nous n'avons plus de nation, nous n'avons plus rien. Et le Seigneur, il nous appelle, tu veux réavoir toutes ces choses-là, tourne-toi vers moi. Et c'est là, encore une fois, qui nous donne la force de nous tourner vers Dieu? Mais c'est la grâce. C'est la grâce et pas autrement. Hein? C'est à cause, pas à cause de ce que nous avons pu faire ou de ce que nous ferons, mais de ce qu'il a fait et de ce qu'il fera. Et tout ça, c'est par et à travers Jésus-Christ. Voilà pourquoi c'est très important de comprendre que si nous nous sommes convertis, c'est par la grâce de Dieu. Si Israël, un jour, il va se convertir dans les temps futurs, dans la prophétie de Dieu, c'est parce que Dieu, il va intervenir. Je répandrai sur eux un esprit de grâce et de supplication. C'est exactement ce qu'il a fait avec nous. La grâce de Dieu, il s'est tourné vers nous. Et c'est le même mot qu'il est utilisé dans Tite. Regardez Tite. Il n'y a pas le mot grâce, mais c'est exactement la même chose qu'il nous dit. Hein. Tite, si je le trouve, s'il n'est pas disparu, ce livre, je ne crois pas. Hein. Mais si quelqu'un l'a déjà, chapitre 3, verset 3 à 5, s'il peut le lire. Hein. Ça m'aiderait. Vous connaissez encore moins que moi.
Autrefois insensé, désobéissant, égaré, asservi à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, digne d'être haï et nous haïssant les uns les autres.
Voilà. C'est exactement ça. Il n'y a pas le mot grâce, mais on voit l'intervention de Dieu. Nous étions, mais par l'intervention de Dieu, nous sommes cela. Et encore une fois, ça nous est arrivé ça, et arrivera exactement la même chose dans le futur. Voilà pourquoi nous devons bien réfléchir à cette grâce de Dieu. Chacun de nous, hein, la grâce de Dieu qui a œuvré dans notre propre vie. Hein? Pour quelle raison est-ce que vous êtes ici ce matin? Peut-être vous êtes d'une famille chrétienne, vous êtes né dans une famille chrétienne. Mais c'est cette famille-là. Le Seigneur, en vous plaçant dans cette famille, il vous a mis déjà sur les traces. En contact avec l'Évangile, en contact avec la Bible. Et c'est là la grâce de Dieu. Si vous avez été invité à une réunion, à un culte, vous dites, ah, je suis là par hasard. Non, ce n'est pas par hasard. C'est que Dieu, il utilise sa grâce pour que vous soyez là. Tout est par grâce. Pourquoi? Parce que nous, on ne mérite rien. On ne mérite rien. Si Dieu, il fait toutes ces choses-là, il les fait parce qu'il nous aime. Voilà pourquoi il a dit, « Je répandrai un esprit de grâce. » C'est ça. Il y a ce vieux cantique, hein? Excusez ma prononciation en anglais, hein? « Amazing Grace », là, hein? Hein? Anglais, je suis nul complètement, pas seulement en anglais. Hein. Mais voilà, c'est grâce infinie. Hein? Vous connaissez tous. Je l'ai ici, je vais vous la lire. Tout ça pour montrer cette grâce de Dieu qu'il a utilisée envers chacun de nous. Il a dit dans Zacharie, « Je répandrai un esprit de grâce. » Et c'est exactement ce qu'il a fait sur nous. Voilà ce qu'il dit, ces cantiques. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu, quand il m'a retrouvé, comme une brebis égarée. Hein? Dans mes épreuves et mes labeurs, suffisante est sa grâce. dans mes labeurs et mes épreuves. Suffisante est sa grâce. Ne cherchons pas d'aide à droite et à gauche. On a la grâce de Dieu. Elle est suffisante. Un peu comme Jésus est suffisant pour notre salut. Hein? Et il continue. Je peux compter sur sa faveur. Je peux compter sur sa grâce. La grâce, la signification, c'est faveur. Faveur imméritée. Et il nous dit, je peux compter. Je peux compter sur sa faveur à chaque heure qui passe. Ne pas dire, tiens, je t'ai donné déjà, il y a une heure, c'est terminé. Non, à chaque heure, à chaque moment. Le Seigneur, c'est un Dieu qui pardonne, c'est un Dieu qui intervient dans notre vie. Et il dit, dans le calme ou dans l'orage, la joie ou la douleur, à toute heure et à tout âge, je regarde au Sauveur. Dans la joie ou la douleur, c'est encore la grâce de Dieu. Si nous sommes dans la joie, c'est parce que la grâce de Dieu est à nous. Bientôt ce monde passera avec ses vanités. Le Fils de Dieu me conduira où ? Dans la félicité. Et il continue, quand nous aurons pendant 1000 ans célébré ses louanges, nous pourrons, comme au commencement, lui offrir nos hommages. C'est un temps indéterminé. Et tout ça, je répandrai sur eux un esprit de grâce. C'est exactement ce qu'il a fait sur moi, c'est exactement ce qu'il a fait pour vous. Les jours où vous vous êtes convertis, les jours où vous avez tourné le dos au monde qui nous entoure et vous êtes tourné vers le Seigneur. Ça, c'est la grâce de Dieu. Deuxième point, encore à la deuxième partie, il dit, je répondrai sur la maison de David et les habitants de Jérusalem en esprit de grâce. Et il continue, et ils pleureront sur lui. Ils pleureront sur lui. C'est-à-dire que Dieu, il nous prépare. La conversion, il vient toujours dans un temps de deuil, lorsqu'on pleure. Pour ceux qui viennent le mercredi, on a vu les béatitudes. Le Seigneur, il dit, heureux les pauvres en esprit, car ils hériteront le royaume. Les pauvres en esprit, ce n'est pas la signification que le monde est le déficient, les idiots, hein? Parce que si quelqu'un me dit, Aldo, tu es pauvre en esprit, quelqu'un du monde me dit ça, il me dit, Aldo, tu es vraiment un idiot. Hein? Mais le Seigneur, il dit, les pauvres en esprit, c'est ceux qui reconnaissent leur état de péché. C'est ceux qui pleurent sur les péchés qu'on a commis. Pas sur les péchés des autres, mais sur les péchés qu'on a commis, parce qu'on est en train de parler de conversion, notre propre conversion. Bien sûr, il faut pleurer aussi en voyant tout ce qui se passe dans ce monde. Le Seigneur Jésus, il l'a fait lorsqu'il regardait Jérusalem de la montagne. Hein, il disait, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu vous rassembler, mais vous ne l'avez pas voulu. C'est ça que le Seigneur nous dit. La conversion, il vient dans une période de deuil, de pleurs. Pourquoi ? Parce qu'en reconnaissant notre condamnation, notre état de perdition, c'est là que nous allons pleurer. Oui, pleurer parce qu'on a offensé le Dieu qui est rempli d'amour pour chacun de nous. Dieu même regarde ce que j'ai fait. C'est un peu comme nos parents, des fois. Nos parents, ils nous aiment, n'est-ce pas ? Et lorsqu'on fait quelque chose contre les parents, leur manque de respect, voilà, on doit pleurer de les avoir offensés. C'est marqué « Honore ton père et ta mère ». C'est le seul commandement avec une bénédiction. Si on veut être béni, honorons nos parents. Et lorsqu'on fait du mal aux parents, on leur manque de respect. Lorsqu'on réfléchit, on se retourne vers les parents, on dit, pardonne-moi papa et maman, je te manquais de respect, je ne t'ai pas aimé comme il faut. Avec Dieu, c'est exactement la même chose. Hein? Dans un temps de Dieu, des deuils. Une autre manière de Dieu, c'est pour nous préparer, c'est de nous montrer notre péché. Car si nous voyons notre péché, c'est parce que Dieu, il nous a parlé. Sinon, on ne verrait jamais le péché. Le Seigneur, il nous l'a dit, « Je vais vous envoyer un Saint-Esprit. » Et c'est lui qui convaincra des péchés, des jugements. C'est lorsque nous avons pu voir notre péché, c'est alors que nos larmes, ils doivent descendre. Pourquoi? Parce qu'on a offensé ce grand Dieu qui nous aime. Il a une seule chose, Dieu avec nous, il nous aime. Voilà les défauts de Dieu, il nous aime. Peut-on appeler un défaut, humainement parlant, hein? Parce que lorsque il y a des ennemis, mes ennemis, des gens que je ne peux pas voir, ou je suis en colère avec eux, je ne les aime sûrement pas. Hein? Mais Dieu, il nous aime. Voilà pourquoi c'est quelque chose de très important. Et Dieu, pour nous convertir, il utilise aussi le moyen encore plus simple, c'est lorsque nous écoutons l'Évangile. Parce que dans l'Évangile, il nous révèle le vrai caractère de Dieu. Ce que Dieu il a fait, ce que Dieu il fera. Et toutes ces choses-là, il les a en réserve pour nous. Si nous nous tournons vers lui. Voilà pourquoi c'est quelque chose de très important. Le Seigneur, il nous prépare. Pourquoi? Parce que nous en avons besoin. Sinon, tout seul, nous ne pouvons pas. Comment est-ce que vous êtes venus? Comment est-ce que nous sommes venus au Seigneur? C'est parce que quelqu'un, il nous a parlé. Quelqu'un, il a témoigné. Sinon, on aurait continué dans la voie du monde. Mais un jour, quelqu'un, il nous a parlé. Nous étions dans ce chemin qui est large. Et nous étions tous en direction de la perdition. Mais le Seigneur, il nous a appelés. Comme j'aime bien ce verset, lorsqu'il dit le chemin large. Et là, on est tous là sur ce chemin. Au bout de ce chemin, il y a quoi? Il y a la perdition, il y a la condamnation. Il y a le jugement. Et pendant qu'on est tous là, un peu comme les brebis le patouche, panourche, hein, vous voyez, les brebis, il y a une brebis qui saute et tout le monde y suit, hein. Mais nous on est pareil, on est sur ce grand chemin et on suit, voilà. La majorité est là, je suis. Mais à un certain moment, Dieu il dit, attention, il y a une petite porte. Pour ceux qui veulent quitter ce chemin large qui mène à la perdition, prenez-la. Et il y a qui ont répondu à cet appel. Et nous sommes sortis de cette perdition. Voilà pourquoi le Seigneur le dit, je vous ai sortis du monde. Vous ne faites pas partie du monde. Nous sommes des enfants de Dieu. Et nous devons vivre comme des enfants de Dieu. Malheureusement, ça c'est quelque chose de très difficile. Hein? Et pourtant, le Seigneur, il est clair sur ces choses-là. Nous devons vivre à la façon de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes convertis. Paul, il dit, j'ai entendu de la façon dont vous êtes convertis. Vous avez quitté les idoles. Mais c'est ça la conversion. Quitter les idoles. Quitter les choses qui prennent la place de Dieu. Est-ce qu'il y a des idoles dans nos propres cœurs? Oh oui. Oh oui. Et pourtant, s'ils prennent la place de Dieu, c'est pas bon. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Tout ce qui prend la place de Dieu, c'est une idole. Hein, lorsqu'il y a des réunions dans l'église, si on préfère faire autre chose, c'est une idole. Parce qu'on donne la priorité à ces choses-là et pas à Dieu. Voilà pourquoi c'est quelque chose de très important. Hein? Le troisième point que je voulais vous vous présenter pour expliquer cette conversion qui va y avoir pour Israël, mais qui s'est répercutée sur notre propre vie. C'est exactement la même façon. Hein. Troisième point, il nous est dit, « Et ils tourneront le regard vers moi, celui qu'ils ont percé. » Dans Zacharie. Comment est-ce qu'ils vont se convertir? Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont perché. Comment est-ce que nous, on a été sauvés? Nous avions les dos tournés à Dieu. Nous avons pleuré sur nos péchés. Et qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons regardé à la croix de Jésus. C'est ça. Et c'est exactement ce qu'ils feront. Et nous ont dit plus loin, c'est lui qu'ils ont percé. Ils se rendront compte qui était Jésus. Ils se rendront compte pourquoi il est venu. Et Jésus, il nous l'a dit lui-même, il a dit, « Si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Si on ne croit pas que Jésus est Dieu, si on ne croit pas que Jésus est mort pour nous racheter des péchés, pour nous délivrer, nous allons mourir dans nos péchés. Voilà pourquoi il le dit, « Et ils tourneront les yeux sur moi, qu'ils ont percé. Hein? » Et dans Ésaïe 45, 22, il dit, et encore, c'est le Christ préincarné qui parle, et il dit, « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. » Comment est-ce qu'on est sauvé? Dans l'Ancien Testament, comment on était sauvé? Ben, exactement la même chose. Lorsqu'ils avaient péché, ils offraient un sacrifice, ils offraient un agneau. Et cet agneau, c'est Jésus-Christ. « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. » C'est ça le... Aujourd'hui, dans le temps de la dispensation de la grâce, comment on est sauvé? Ayez le regard fixé sur Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, Moïse, hein, Dieu, il a envoyé des serpents. Vous en souvenez, cette histoire? Des serpents venimeux. Ils ont mordu les gens. Et alors, ils se sont tournés vers Moïse. Ça, on est empoisonné. On va mourir. Que faut-il faire? Et Dieu a dit à Moïse, construis-toi un serpent de rein. Et tous ceux qui auront été mordus, ceux qui sont empoisonnés, ceux qui sont condamnés à mourir, regardez les serpents. Et c'est exactement ce qu'il nous dit. Ils regarderont vers moi, celui qu'ils ont percé, et ils seront sauvés. C'est exactement ce que nous devons faire aujourd'hui. Il dit, et ce matin, je vous demande de venir à Jésus-Christ, de croire en Jésus-Christ, car c'est la seule et unique manière. Nul autre que Jésus, il peut nous sauver. Dans Actes, il nous a dit, car Dieu, il lui a donné un nom au-dessus d'autres noms, par lequel et seulement on peut être sauvé. Et ce nom, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous disons constamment, « Je t'aime, Jésus. » Parce qu'il a fait tant de choses pour moi et pour vous. Voilà pourquoi nous devons venir à lui. Lui-même nous le dit, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. » N'êtes-vous pas fatigués et chargés de vivre dans ce monde-là? Il y a tellement de difficultés, tellement d'indifférences, tellement de choses qui ne vont pas. Et des fois, c'est vrai qu'on est fatigué, pas seulement parce qu'il y a du travail, ou il n'y en a pas, ou il ne nous en donne pas, mais on est fatigué de voir ce monde qui refuse cette grâce de Dieu. Dieu qui est prêt à les aider, mais ils ne veulent pas. Vous savez que Dieu, il pleure. Il dit, mais Dieu, il est Dieu, il ne peut pas pleurer. Non, Dieu, il pleure. Parce qu'en voyant ce monde... pour lequel il a donné son Fils unique. Il a tout fait pour que ce monde soit sauvé. Et qu'est-ce qu'il fait, ce monde? Il continue à le dédaigner, à le laisser de côté. Et pourtant, Dieu, il a fait tout pour que l'humanité puisse être heureuse. Et Dieu, en regardant ce monde, il pleure. Il verse des larmes. Mais il viendra un jour où il va intervenir dans ce monde. Il va y avoir un certain moment tous les rois de la terre qui vont s'unir pour détruire ce que Dieu il a construit pendant les milléniums. Et il nous a dit, l'Éternel est dans son trône et il rit. Pourquoi il rit? Parce que toutes ces nations qui... ils se mettent contre lui, il rigole, leur disant, vous êtes rien, ma volonté va s'accomplir. Si vous ne vous tournez pas vers Jésus-Christ, mon Fils, vous êtes perdus. Je vais vous balayer, je vais vous envoyer là où il est votre place, en enfer. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas qu'on leur parle de l'enfer. Ah, il ne faut pas mettre peur aux gens. Mais Jésus, c'est celui qui en a parlé de plus, de cet enfer. Et nous savons que l'enfer, c'est quelque chose de réel. Et nous devons en parler, car nous sommes des sentinelles. Nous avons la pensée de Dieu. Dieu, il révèle toutes choses à ses serviteurs. Et il nous a tout révélé dans la Bible. Et c'est ça que nous devons dire aux gens. Réveillez-vous, car Dieu, il va venir. Dieu, il va se nicher dans le monde. Il va réclamer ce qui lui est des droits. Car c'est lui le créateur. C'est lui qui a formé l'homme. C'est lui qui a donné la loi à l'homme. C'est lui qui a décidé comment être sauvé ou pas. Mais l'homme, il a toujours voulu faire ses propres affaires. Et ça, du commencement. Hein. Adam et Ève, il a dit, tu ne mangeras pas. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont mangé. Caïn et Abel, ils ont voulu louer Dieu. Il y en a un qui l'a fait selon le plan de Dieu. Et l'autre, il a voulu inventer. Il a dit, je donne à Dieu tout le meilleur de mon travail. Et là encore, Dieu, il est intervenu. Pourquoi? Parce qu'on doit faire les choses que Dieu a décidées. Pourquoi devons-nous faire ça? Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. C'est lui qui décide toutes choses. Voilà pourquoi la conversion d'Israël, c'est une prophétie. Ça va arriver. C'est comme si arrivé pour nous. Pourquoi? Comment est-ce qu'on s'est converti? Par l'intervention de la grâce de Dieu. C'est lui qui a tout fait. Et aussi, parce que nous avons pleuré lorsque Dieu il est intervenu dans notre vie, à cause de nos manquements, à cause de nos péchés. Et il nous a donné ce salut, cette grâce, il l'a déversé sur nous. Comment? Lorsque nous avons regardé les yeux sur Jésus-Christ, le seul et unique salut pour le monde entier. Voilà, que le Seigneur il puisse nous ouvrir les yeux et que nous puissions, si nous ne l'avons pas encore fait, nous tourner vers lui. Car c'est le seul moyen de salut. Si on ne le fait pas, nous sommes voués à l'enfer. Nous serons condamnés, nous serons jugés. Et cela, Dieu ne le souhaite pas. Voilà pourquoi nous sommes là pour annoncer sa parole, l'évangile. Et cet évangile, nous devons le faire jusqu'au jour où il va revenir. Car un jour, ça va se terminer. Hein. Ce monde ne dure pas infiniment. Comme il est arrivé pour le déluge, Dieu, à un certain moment, il va fermer les portes. Et vous savez que lorsqu'une porte est fermée, on ne rentre pas. Il va fermer la porte et c'est alors que chacun y rendra compte à Dieu de ce qu'il a fait. Et il recevra par rapport à ce qu'il a fait. Que le Seigneur nous donne cette réflexion, une réflexion bénie et une réflexion qui apporte le salut, la paix et le repos.